Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés pour cette émission qui s'appelle donc le Délit d'opinion. Alors dans les commentaires de la dernière vidéo, on m'avait demandé de me présenter, donc je suis Léonard, étudiant en droit, et chaque semaine donc je pose des questions en rapport avec l'actualité à Charles Gave, ici présent.
Et bonjour.
Première question, en ce moment, à l'Assemblée nationale, ces derniers jours, il y a un débat sur la potentielle légalisation du cannabis. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, surtout dans une perspective libérale d'ailleurs.
C'est un vieux débat. Alors, il y a toute une série de libéraux qui ont toujours été favorables à la libération des drogues. Et je dois dire que je serais assez facilement d'accord avec eux. Je m'explique. C'est que c'est. Vous savez que aux États-Unis, dans les années 20, il y avait eu. On avait interdit l'alcool.
Ouais.
Ça a permis le développement foudroyant de la mafia, qui ensuite s'est fait énormément d'argent avec l'alcool, et puis ensuite elle a gangréné toutes les autres parties de la criminalité, la prostitution, et puis la drogue, puis tout ce que vous pouvez imaginer, le jeu. Donc l'argument en faveur de la libération de la drogue est assez fort, en particulier de la marijuana. C'est à partir du moment où vous le libérez, il n'y a plus d'argent à faire pour les criminels. Et donc vous avez à peu près les deux tiers des gens qui sont en taule en France aujourd'hui qui se sont fait choper pour des problèmes de drogue. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que plutôt que de bâtir des prisons pour enfermer déjà des gens qui, dans le fond, pratiquent un commerce illicite, mais pratique un commerce, il me semble plus logique de laisser les gars se défoncer si ça leur fait plaisir. C'est un argument de liberté individuelle. Si vous interdisez la drogue, surtout les drogues dont on dit qu'elles ne sont pas dangereuses, mais là je suis pas d'accord, parce que la marijuana peut être de plus en plus dangereuse, il me semble que. Où est-ce que ça s'arrête? Vous pouvez interdire l'alcool, vous pouvez interdire le chewing-gum, comme à Singapour, parce que ça salit par terre, vous pouvez. Donc, de façon générale, l'interdiction d'un produit devrait toujours être l'exception.
Oui.
Et la règle, bah, c'est la permission. Moi, je suis pas un gros consommateur de substances nocives, mais j'aime beaucoup mes cigares.
Oui.
Et quand j'étais en 68-69, quand je faisais mes études aux États-Unis, c'était le début de la marijuana là-bas, le shit. Et j'en ai goûté un peu, pour savoir ce que c'était, parce que quand on a 25 ans, on est idiot. Et bah, c'était bien moins intéressant qu'un cigare, quoi. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement pour la libération de la drogue, mais je suis tout à fait contre l'interdiction des cigares, quoi. Et ça me paraît. Et ça nourrit toute une activité criminelle qui empoisonne la vie des gens dans les villes, quoi. À la place de travailler, les gamins, ils préfèrent tous faire du trafic et être. Donc ça crée un monde qui prend l'habitude de l'illégalité.
Oui, après, on pourrait se dire aussi dans l'autre sens, où est-ce que ça s'arrête, la légalisation du trafic de drogue? Par exemple, à Paris, par rapport à la France, il y a un cas un peu spécial, c'est que dans le nord-est parisien, il y a eu, il y a quelques années, des ouvertures de salles de shoot, notamment pour les
Pour
addicts
l'héroïne, oui.
au crack et à l'héroïne. Et le problème, c'est que derrière, lorsqu'ils en ressortent, ils ont toujours une addiction. Donc ça ne les améliore pas dans leurs conditions. Et l'autre problème, c'est que ça nuit aussi à la population locale, notamment quand on emmène ses enfants à l'école ou quand on les ramène à la maison et qu'on croise des gens qui sont addicts au crack, parfois ça peut faire un petit peu peur. Et donc
À
à ce
mon avis,
moment-là.
ça les prévient surtout contre ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, c'est vrai.
Il regarde ses déchets et il se dit c'est peut-être pas une bonne idée. Je conçois très bien l'argument de la paix publique, mais pour un libéral, quand même, il doit prévenir des gens des méfaits de la drogue, donc il faut qu'il y ait une information de qualité. Mais. Qu'est-ce qui donne le droit à un gouvernement d'interdire quelque chose? Je veux dire, prenez la religion musulmane, ils interdisent l'alcool. Donc, si vous êtes dans un pays musulman, vous n'avez pas droit à l'alcool. Je peux dire une bêtise, j'en suis pas sûr, mais comme le prophète parle pas du shit, je crois qu'il peut en avoir.
En théorie, j'imagine, oui.
Donc, si j'ose dire, dans les pays musulmans, ils ont le droit de prendre de la marijuana, mais ils n'ont pas le droit de se siffler un coup de rouge. Et nous, on fait l'inverse. Ça ne me paraît pas particulièrement rationnel, ni dans un cas ni dans l'autre, quoi. La liberté individuelle doit primer. Si, faut pas oublier que c'est le droit constitutionnel de chacun de se suicider s'il veut.
Oui.
On ne l'aide pas à se suicider, mais.
Après, quelque part, faire en sorte qu'une substance soit illégale, c'est peut-être aussi, aux yeux de beaucoup de monde, la rendre immorale.
Ça la rend surtout désirable, et puis surtout, on fait un fric pas possible dessus. Parce que comme elle ne peut pas être vendue légalement, les marges sont monstrueuses, et donc vous incitez les criminels à dire aux jeunes, prenez de ce truc-là, vous verrez, c'est très bien, de façon à les attraper comme clients. Donc à partir du moment où il n'y a plus un rond à gagner, les types, les dealers, iront pas traîner dans les écoles pour proposer des joints aux
Non.
gamins, quoi.
Oui, bon, ils vont proposer autre chose, quoi.
Ben, ils proposeront autre chose, c'est là où ça s'arrête. C'est là où est le problème, c'est que oui, bien sûr, ils vont proposer autre chose. Il y a une série de gamins qui les prendront. Il n'y a pas d'autre. Il y a, en quelque sorte, devant ce genre de truc, je crois pas qu'il y ait beaucoup de solutions collectives. Ou alors, on fait ce que fait Singapour, ce que fait Haïti, ce que fait la Thaïlande, ce que fait la Chine, c'est qu'un trafiquant de drogue, quelle qu'elle soit, qui est interdite, est exécuté immédiatement. C'est la peine de mort. Alors ça, c'est une autre possibilité qui limite les enthousiasmes aussi.
Ouais, c'est sûr.
Voilà,
Ça
donc
va,
il
c'est
me
plus
semble que
dissuasif.
ça limite beaucoup les enthousiasmes. Donc oui, comme je ne suis pas partisan de la solution de Singapour, il me semble que. Oui, c'est pas plus mal, quoi. C'est de laisser les gens.
D'accord, ok.
Sans enthousiasme.
Autre actualité de la semaine, une vidéo que le président de la République a tournée avec deux youtubeurs, McFly et Carlito. Ça dure environ une demi-heure, un petit peu plus, et le principe, c'est un concours d'anecdotes. En gros, ils donnent chacun des anecdotes, vraies ou fausses, et celui d'en face doit deviner si celle-ci est vraie ou fausse, et le gagnant doit un gage envers l'autre. En l'occurrence, ils ont eu une égalité, et le président de la République a donc comme gage de faire son interview traditionnelle du 14 juillet avec deux portraits de ces youtubeurs en question derrière lui sur son bureau. Est-ce que c'est un gigantesque coup de com' ou un abaissement du prestige présidentiel?
Comment dire? Il y a une série de gens qui continuent à penser que la jeunesse a des caractéristiques d'intelligence et d'intuition supérieures à la vieillesse. Vous savez, c'est exactement. Moi, j'ai vécu, comme vous le savez, longtemps en Asie. Et en Asie, on se méfie terriblement de la jeunesse. Parce que, par définition, ils savent rien, ils sont l'objet d'emballement, ils ont trop de testostérone, ça va pas, ils sont pas tout seuls dans leur tête, enfin, ils ont plein de trucs. Donc, cette façon qu'a le président de la République de se mettre avec des jeunes pour faire croire que lui, il est jeune, et que, bon, à mon avis, c'est complètement ridicule. J'aurais préféré qu'il aille avec, avec deux vieillards, puisqu'il est né vieillard. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, quand je vois un homme comme M. Macron, qui... dont je pense qu'il n'a jamais eu une pensée droite. Vous voyez, je veux dire, je veux ça, donc je vais le dire, quoi. Lui, il fait toujours, je veux ça, donc je vais dire autre chose pour essayer de l'avoir. Vous voyez, il fait des coups de billard dans tous les sens. Je peux pas croire une seconde qu'il ait fait ça pour faire remonter son prestige. Je pense pas qu'il ait ça, ni auprès des jeunes, ni auprès de personne, parce qu'en plus, je connaissais pas ces deux gars-là. Ils n'ont pas l'air d'être particulièrement malins, donc bon, je me dis, en plus qu'ils terminent ex aequo avec eux, c'est d'une bêtise, ça dépasse l'entendement. Donc, je ne crois pas une seconde. Donc, je me dis, pourquoi a-t-il fait ça? À mon avis, mais je peux me tromper bien entendu, c'est pour faire gueuler tous les gars de la droite classique. De façon à ce qu'eux apparaissent comme de vieux cons.
Et c'est là, une tentative de ringardisation de la droite.
C'est une tentative de... Donc, il dit, regardez, on ne peut pas parler à des jeunes sans qu'immédiatement il fasse appel. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle en train de faire ça et tout? Mais qui pourrait aussi, ça fait longtemps qu'il est mort, le général de Gaulle, il pourrait lui foutre la paix un peu. Et quand je vois tous ces gars de droite qui n'arrêtent pas d'invoquer les mannes du général de Gaulle, moi ça me donne envie de me taper la tête contre les murs, parce qu'ils auraient toujours voté contre lui s'ils avaient... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça me paraît une manœuvre pour faire paraître complètement idiot... je sais pas, Madame Le Pen ou Monsieur Dupont-Aignan ou n'importe quoi, vous voyez, c'est... Okay. Et bien entendu, ils tombent dans le piège. Ils sont tous en train de bramer en disant, regardez, il défraîchit le rôle de président de la République, il le dévalorise, il descend de l'Olympe.
Ce qu'on devrait faire, c'est juste ne pas en parler.
Ce qu'on devrait faire, c'est simplement dire... aucun intérêt, quoi. Moi, je passe mon temps à dire, dans les nouvelles que vous recevez sur les radios et les télévisions, il y en a 90% où vous devriez avoir un truc supprimé, quoi. Vous savez, comme sur les ordinateurs. C'est, vous savez pourquoi on vous l'a mis, c'est pour vous faire grimper au rideau, c'est pour vous faire sentir mal parce que on dit que vous êtes raciste alors que vous l'êtes pas. Enfin, c'est des trucs comme ça, non? Bon, ça me paraît un truc... de manipulation stupide.
Moi, j'ai vu un petit peu une tentative de dépolitisation du président.
Oui, mais dépolitisation, alors, c'est peut-être son but. Son but, on l'a vu d'ailleurs au moment des élections législatives, c'est qu'il n'y a même pas un Français sur deux qui est allé voter aux élections législatives après son élection présidentielle. Si son but, c'est de dépolitiser les élections, il va se retrouver élu par 10% des gens. Donc, il sera peut-être légal, mais il ne sera pas légitime. C'est-à-dire que c'est une vieille notion gaulliste, celle-là. C'est qu'on peut tout à fait être légal. La 4ème République était légale, mais elle n'était pas légitime. On peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a toute une partie de l'Europe qui est légale et non légitime. Et c'est là ce dont on crève. Donc, s'il continue à pousser dans le sens de ce qui est légal et ce qui n'est pas légitime, il sera je sais même pas s'il réussira à finir son mandat, quoi. Il lui reste un an, mais il va falloir qu'il s'accroche.
Autre fait d'actualité, le pass culture. Alors le pass culture, c'est donc 300 euros donnés à chaque jeune de 18 ans. 18 ans pas révolus, donc c'est pas rétroactif, c'est uniquement à ceux qui ont 18 ans là à l'instant T. Et ce sera aussi pour ceux qui auront 18 ans dans les temps à venir. Dans le domaine de la culture. Alors dans le domaine de la culture, malgré nous notre patrimoine titanesque, ce qu'on considère comme de la culture, c'est le rap, des mangas, des albums de musique bobo ou encore n'importe quelle série américaine dont le président a fait la promotion sur son compte Instagram à l'occasion de la sortie de ce pass culture. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je sais pas, moi, un pass culture, ça aurait peut-être été de leur apprendre à lire, à écrire et à compter, ça aurait déjà été... parce qu'il aurait servi dans la vie, mais ça, les pauvres vieux, ils l'ont pas fait pendant l'école, puisque je crois qu'il y a à peu près 30% des gamins qui terminent l'école secondaire sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter, donc ça me paraît plus important que de... Qu'est-ce que ça m'inspire? Encore une fois, ça m'inspire quelque chose, c'est... ce que j'ai dit souvent ici, c'est quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables. C'est la définition de Confucius. Quand j'avais 18 ans, les hommes de culture, c'était Raymond Aron, Bertrand Jovenel, notre ami Revel, Sartre, Camus, Mauriac, vous en aviez un paquet des hommes de culture, des grands musiciens. Donc derrière pour moi le mot de culture, aussi curieux que ça paraisse, il y a une vie de travail du gars qui est arrivé. Et la culture, vous vous la faites au hasard et selon vos goûts. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup lu dans ma vie, hein, parce que j'habitais souvent à la campagne où il n'y avait rien à foutre. Et il n'y avait aucun de ces trucs d'aujourd'hui, donc on était obligé de lire. Et j'aimais beaucoup ça. Et je suis arrivé... J'ai eu des périodes, c'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas, j'ai découvert Balzac, alors je me suis tapé tout Balzac... J'en sortais. Puis après ça, j'ai découvert Mauriac, qui était un écrivain qui écrivait dans la région de Bordeaux avec des familles qui se mettaient sur la gueule pour des histoires d'argent. Quoi. Et je sortais de là, je regardais tout le monde dans ma famille avec beaucoup de méfiance parce que c'était absolument épouvantable. Les romans de Mauriac, c'était épouvantable. Bref. Et donc, ça avait de l'influence sur moi. Et puis j'ai découvert Solzhenitsyn, et puis j'ai découvert des gens comme ça. Et puis ça a toujours eu de l'influence sur moi. Donc, la culture, en quelque sorte, c'est. Pour moi, c'est une espèce, une série de coups de foudre que vous avez pour des gens que vous découvrez d'un seul coup et que vous découvrez avec ravissement et quand vous savez que dans le fond, il n'a pas écrit qu'un livre, quoi. Donc vous allez pas, il n'a pas fait qu'une pièce de théâtre ou il n'a pas fait qu'un morceau de musique. Donc cette idée qu'il faut aider les gens en leur donnant de l'argent pour se cultiver, c'est presque antinomique. C'est-à-dire que on les paye pour faire quelque chose qu'ils devraient faire par goût. Après 20 ans d'études, ou j'en sais rien, après 20 ans, ils devraient pas avoir besoin qu'on les paye pour faire ça. C'est pas pénible d'acquérir de la culture. C'est pas pénible de lire Revel.
Après, moi, pour le coup, j'ai vu quelques cas. Alors, c'est un peu dans le microcosme de la jeunesse de droite, mais j'ai vu aussi des cas de jeunes de 18 ans qui, justement, n'avaient pas forcément énormément de moyens et en avaient profité pour faire des achats de 150 € de livres, par exemple, chose qu'ils pouvaient peut-être pas forcément se permettre avant.
Ça, c'est pas une mauvaise idée, mais je suis sûr que ça existe encore. Si ça existait à mon temps, ça a sûrement pas été supprimé. C'est qu'il pourrait aller dans des bibliothèques. Et là, dans les bibliothèques, moi, j'y allais, et puis je prenais des bouquins, et puis s'ils étaient très, 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 très bons, je les rendais pas, quoi. ce qui était pas bien du tout, mais enfin, je veux dire, faut pas rigoler, quoi, si c'était vraiment
ce
bien.
C'était illégal, mais légitime.
c'était illégal et légitime. Donc, je peux vous raconter une anecdote, mais qui est stupide. C'est quand je suis arrivé en première année d'économie, je ne savais pas ce que c'était l'économie, il y avait un livre qui s'appelait par un gars qui avait été fait par un Français, qui s'appelait Marshall, qui était professeur d'économie en France, qui devait faire 1200 pages, et qui était une espèce de manuel d'économie, et ça m'avait coûté 100 francs. Ce qui, à l'époque, était beaucoup de pognon. C'était en 60-61, ça doit correspondre au moins à 600, à 100, 100 euros, je sais pas combien. Et donc, j'ai acheté ce truc-là en disant, merde, 100 francs.
Quand même, quoi.
100 francs pour un bouquin épais comme ça d'économie. Bon. Et je me suis dit, bon, mais tu vas te le taper en entier, un crayon à la main, parce qu'il faut quand même que tu gagnes tes 100 francs, quoi. On m'aurait donné les 100 francs, je l'aurais peut-être pas lu. Parce que c'est moi qui les avais payés.
Ah oui.
C'est moi qui avais fait l'effort d'aller chercher le bouquin, de le lire, de le. Donc, dans une amélioration personnelle, ça commence toujours par un grand coup de pied dans le derrière qu'on se donne à soi-même, quoi.
Après, j'y vois aussi quelque part un transfert de richesse, D'un côté, de Français qui sont un petit peu inquiets de la situation actuelle et qui ont tendance plutôt à épargner, vers des jeunes qui, eux, vont directement tout dépenser très rapidement.
Ben, ils vont tout dépenser trop rapidement, mais ils vont probablement tout dépenser pas en bouquins, mais ils vont dépenser ça en séries Netflix, en idiotie sur le net. Donc j'ai peur que ça fasse une fois de plus la fortune des GAFA, quoi.
Oui.
C'est un transfert direct du gouvernement français aux GAFA, quoi. Ils n'ont pas besoin de pognon, ceux-là, hein. Je crois pas, non, pas vraiment.
Alors, autre chose, l'Union européenne, comme à son habitude, souhaite ouvrir davantage de voies légales pour accueillir davantage de travailleurs migrants. Est-ce qu'on en a besoin?
Alors là, c'est une question piège, ça. Je sens que je vais tomber dans la piège de façon abominable, mais non. Je suis beaucoup trop malin pour ça, donc je ne vais pas tomber dans le piège. Je vais vous répondre de la façon suivante. Il y a un homme que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu, justement j'ai eu une période où je l'ai beaucoup lu, qui s'appelait Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'était un sociologue qui était aussi théologien, qui était aussi professeur de sciences politiques à Bordeaux, qui a écrit toute une série de livres qui ont fait date. C'était un des grands intellectuels français, mettons, dans les années qui vont de 1940 à 1980. Il était de la taille d'un Raymond Aron, enfin, c'était un type tout à fait remarquable. Et à la fin de sa vie, comme il s'intéressait beaucoup aux problèmes de théologie, il a fait un rendez-vous avec le recteur de la mosquée Al-Aqsar, je crois que ça a duré 2-3 jours, qui est la grande mosquée sunnite au Caire, qui est un peu le Vatican des... Pas vraiment, mais le Vatican
Qui est l'école la plus importante, l'école de pensée la plus importante
de chez les sunnites. Pour discuter entre deux, devant les élèves, est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie ou pas? Avec les valeurs de la démocratie. Et les deux, Jacques Ellul et le recteur, sont arrivés à la conclusion qu'elle était incompatible. Ce qui était un truc intéressant. Donc ce que disait Ellul, en partant de ce principe, et il expliquait pourquoi dans le dernier petit ouvrage qu'il a écrit à la fin de sa vie, et que je recommande aux lecteurs qui veulent le trouver, ils le trouveront sur le net, Ellul disait, il n'y a aucun problème d'immigration. Les immigrations chinoises, les immigrations philippines, les immigrations italiennes, les immigrations n'ont jamais causé aucun problème en France. Ce qui a toujours causé des problèmes, c'est des immigrations musulmanes dans les différents pays. Ça, c'est ce que disait aussi Huntington dans La guerre des civilisations, c'était les frontières de l'islam sont sanglantes partout. Donc, ce que disait Ellul, c'est qu'il faut être pour l'immigration et contre l'immigration musulmane. Donc, c'est ça la vraie question. La question que vous me posez une question sur l'immigration. Mais en fait, la question que vous me posez, c'est la question de l'immigration musulmane.
Oui, bah, oui, c'est laquelle en fait?
Donc, si vous voulez, moi, je serais prêt à recevoir tous les Philippins du monde. Tous les Chinois. Le Chinois, vous faites venir un petit Chinois ici. Il va au lycée dans le 18e et 10 ans après, il est à Polytechnique, quoi. Il n'y a pas de difficulté. La famille le fait bosser, tout le monde l'amène et tout le monde se cotise pour qu'il. Bon. Donc, encore une fois, il faut poser les vrais problèmes. Le problème, ça n'est pas l'immigration. Le problème, c'est l'immigration musulmane. C'est là qu'est le problème. Et on essaye de noyer les deux ensemble.
Oui,
Nous avons besoin d'immigration, mais d'immigration qui ne crée pas de problème de civilisation quand ils arrivent.
les institutions européennes et nationales, d'ailleurs aussi en France, ne font pas forcément la
Ils
différence.
refusent de la faire. Or, c'est la seule question. La question essentielle, c'est celle qu'avait posée Ellul et qu'il avait traitée avec le. C'est est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie? Et c'est une question qu'il me semble, on peut se poser. Par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme. Bon, mais la femme reçoit la moitié des biens. dans un cas d'héritage, donc il n'y a pas d'égalité de l'homme et de la femme, quoi. Et je pourrais décliner tout ce que vous voulez dans les trucs qui sont fondamentalement opposés à ce qu'est notre civilisation.
Oui.
Donc ça n'est pas une hostilité à la religion musulmane, c'est simplement une question, est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie ou non? Et tous les hommes politiques français répondent oui, et ils n'y connaissaient rien, alors que lui, il avait passé sa vie à étudier et la religion chrétienne, et la religion musulmane, et la démocratie.
Après, si la superstructure islamique est effectivement incompatible avec la nôtre en Europe, est-ce que ça empêche derrière que des individus puissent s'intégrer correctement à la civilisation?
Ça n'empêche rien du tout, à condition qu'ils cessent d'être musulmans. Par exemple, pour un musulman, la charia est au-dessus de la constitution.
Pas pour tous.
Enfin, s'il ne l'est pas, à ce moment-là, il n'est pas musulman.
Ah oui?
Ben non. Puisque ça fait partie de la croyance musulmane que la charia est au-dessus de la constitution.
Mais s'il a toujours une foi musulmane, malgré tout?
Eh bien, ça, on ne peut pas l'en empêcher, mais à ce moment-là, la charia ne peut pas être supérieure à la constitution. La loi fondamentale de la France, c'est la constitution, c'est pas la charia. Oui. Et il ne faut pas oublier que l'islam est un livre incréé. C'est-à-dire qu'il a été dicté par Dieu, on ne peut pas en changer une ligne. Donc, on a un vrai problème fondamental, mais je suis absolument stupéfait de voir à quel point les gens bottent en touche pour ne pas en parler. Le seul problème important, c'est celui-là. Est-ce que oui ou non, ça l'est? Et la réalité, c'est que dans le fond, il y a très peu de démocratie musulmane. Cherchez.
Et dernier sujet, l'administration britannique reconnaît avoir exagéré le risque du coronavirus. Pour que les citoyens le prennent davantage au sérieux. Et en France, on a eu un petit peu la même chose. Alors, c'est pas l'administration, la grande administration qui a fait ses aveux, mais c'est Santé publique France, en l'occurrence, qui annonce avoir surestimé les contaminations, le nombre de contaminations par jour d'environ 6%, ce qui fait 350 000 cas de plus, de trop, même depuis février. Est-ce que c'était volontaire aussi en France, selon vous?
Ça s'est produit partout. Sauf en Suède, encore une fois. Et moi, vous savez, je suis un économiste, et donc je travaille avec des chiffres. Mais dites-vous bien que les chiffres, ça peut être manipulé.
Ce sont des petits êtres fragiles auxquels on fait dire ce qu'on veut.
Surtout quand on les torture suffisamment. Ils disent tout ce que vous voulez dès que vous les torturez un peu. Et donc, pour ce qui concerne le Covid, j'ai décidé dès le départ que je n'allais pas prendre le nombre de morts de Covid tel qu'annoncé par l'API. Parce que je me disais, ça va être du grand n'importe quoi. Je prends le nombre de morts qui ont eu lieu cette année, l'année dernière, l'année d'avant, etc. Et je les compare. Pour voir s'il y a eu un...
S'il y a eu une surmortalité.
S'il y a eu une surmortalité. Je me dis, la surmortalité, elle vient peut-être du Covid. Voilà, c'est un peu sale. Et là, c'est un truc que vous ne pouvez pas maquiller. Parce que ou vous êtes mort ou vous n'êtes pas mort. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est ensuite de quoi on est mort. Si on est mort et qu'en l'occurrence on avait le coronavirus, ça ne veut pas dire qu'on est mort du coronavirus.
Mais j'ai vu des cas aux États-Unis qui m'ont fait sourire. C'est-à-dire de gars qui avaient eu un accident de moto et la tête éclatée, qui étaient déclarés morts du coronavirus parce que ça permettait à l'hôpital de tous être touché $300 de plus. Un truc comme
ça. Oui, il y a ça aussi.
Donc, alors si vous acceptez ça. Ce que vous voyez avec stupéfaction, c'est que quoi qu'aient fait les gouvernements, quelles que soient les mesures qu'ils ont prises, quels que soient les vaccins qu'ils aient faits, etc., ça n'a eu aucune influence. C'est tout pareil. La forme de la courbe est exactement la même, l'accélération de la courbe est exactement la même, ça rebaisse à peu près au même moment. Et donc, vous vous dites... Les gouvernements nous ont donné l'impression qu'ils s'en occupaient, qu'ils allaient faire une différence, et que dalle. Ça fait aucune différence. Donc,
Sauf peut-être dans les cas vraiment hardcore, par exemple en Chine, quand il y avait un confinement extrêmement
Ah oui, mais
strict,
si vous
là.
mettez tout le monde dans un camp de concentration, c'est sûr, ça limite sérieusement les possibilités. Si personne ne peut sortir du camp de concentration, ça limite les contagions, ça va sans dire. Mais en plus aussi, en Chine, ils n'en ont pas eu tant que ça, et en Asie, ils n'en ont pas eu tant que ça. C'est parce que je pense que les virus en Asie, c'est endémique, donc ils doivent tous être auto-immunes, plus que nous, quoi. Parce que nous, on est. Moi, par exemple, je ne l'ai pas eu. Moi, c'est parce que j'ai traîné 10 ans en Chine, donc j'ai peut-être attrapé les saloperies là-bas d'un ordre moindre, mais qui me protégeait aussi quand dessus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'en sais rien, hein. Je dis ça, je dis rien, mais j'y connais rien, je ne suis pas médecin. Mais voilà un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a eu une espèce d'opération de relations publiques pour foutre la trouille à tout le monde. Non, je ne comprends pas très bien pourquoi on l'a faite. J'ai jamais compris pourquoi on avait. Alors que les seuls qui claquaient, c'était les gars qui. Un âge médian de la mort, c'était 84 ans. Avec d'autres maladies, du style de diabète, toute l'obésité. Et je me disais, pourquoi ferme-t-on les économies du monde entier, sauf en Suède, encore une fois, alors que le gars qui meurt, il meurt en général 2 ou 3 mois avant sa date de mort, parce qu'il était déjà assez affaibli,
En mauvais état.
en mauvais état. Et par exemple, aujourd'hui en France, je crois qu'entre 60 et zéro, on a le plus faible nombre de morts de l'histoire. On n'en a jamais eu aussi peu. Donc, on est en train de me casser les pieds avec une maladie qui n'a tué personne, quoi. Sauf ceux qui allaient claquer de toute façon 3 ou 6 mois après. Alors, c'est bien triste. En plus, je me rapproche de cet âge-là. Donc mais en même temps, je trouve absolument scandaleux qu'on ait empêché toute une série de grands-parents de dire adieu à leurs petits-enfants, de recevoir des visites dans les. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont morts comme des chiens, quoi. Qu'on a laissé mourir comme des chiens dans des maisons de vieillards où ils avaient plus le droit, non, ils avaient plus le droit de sortir en prison.
Ils n'avaient plus le droit de voir leur famille.
Plus le droit de voir leur famille, plus le droit de voir leurs enfants, plus le droit de serrer la main de leur fils avant qu'il claque. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça abominable. Donc, tout ça me paraît faire partie d'une espèce de déshumanisation de la société. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à un point de protection de l'individu, qu'on veut foutre la trouille aux gens.
On veut absolument protéger l'individu de lui-même.
On veut, exactement comme si on revient à la drogue, ben, c'est mon droit constitutionnel de faire des conneries. C'est le droit constitutionnel de me balader si j'en ai envie, même si j'ai 85 ans. Et si je claque, j'ai pris mon risque. Et si j'ose dire, je vous emmerde. La vraie question, c'est, on n'a plus le droit de dire, je vous emmerde. C'était quand même, c'est avec ça que la garde napoléonienne, la garde impériale a chargé à Waterloo. J'ai le droit de dire non. Le droit essentiel de la démocratie, c'est de dire non. Je n'accepte pas vos trucs. Et on va me dire, mais vous allez rendre tous les autres malades? Ben, je leur dis, s'ils ont 30 ans, de toute façon, ça va être comme une grippe, ils vont pas en crever.
Ouais.
Pour moi, cette histoire de foutre la trouille, c'est une façon de rendre les gens. On leur fait tellement peur de mourir qu'ils oublient de vivre. Et quand ils oublient de vivre, et ben ils restent chez eux, ils restent tranquilles et ils n'emmerdent pas le gouvernement, quoi. Par exemple, toutes les révolutions en France ont commencé dans des cafés. Dans le côté du quartier latin, mais enfin ça a commencé dans des cafés. Ben, si vous fermez les cafés,
Oui, il y a moins de discussions, il y a moins
on peut plus
de
se
vie
mettre à
en
30
général.
pour aller envahir l'Élysée, quoi. Ben, ça rend la vie beaucoup moins drôle.
Ah oui, c'est beaucoup moins.
Donc, moi, je crois que, exactement. Allez vous balader devant l'Élysée. Allez vous balader devant l'Élysée. Toute la rue du Faubourg Saint-Honoré, là, qui est devant l'Élysée.
Ouais.
Quand j'étais gamin, je passais à pied devant là où il y avait le général de Gaulle, là. Tout le monde s'en foutait. Je veux dire, personne ne me. Il n'y avait pas des chaudes frises, etc. Aujourd'hui, Monsieur Macron a fermé ça. On ne peut plus passer là. Il a privatisé toute une partie de la. Cet homme a peur des gens qui disent non. C'est un trouillard. Et donc, je me dis, il nous fout la trouille pour se protéger, lui. Et quand je vois ces chevaux de frise devant l'Élysée, je me dis, mais C'est un lâche.
Y a de ça, oui.
C'est un lâche.
On se souvient de Gaulle ou Mitterrand qui pouvaient se balader dans la rue, aller chez le libraire normalement. Aujourd'hui, c'est inenvisageable
Et
pour
la question,
Macron.
c'est pourquoi? Est-ce que vous avez lu Le Seigneur des Anneaux?
Alors, j'ai pas lu, j'ai regardé les films.
Vous avez regardé le film, parce que dans le c'est bon, c'est une histoire. Dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez quelque chose qui est passionnant. C'est qu'il y a le roi qui est tombé sous la coupe d'une espèce de gars qui lui explique: tu es vieux, il faut que tu te reposes, il faut que tu. Le roi des Lohengrin, je crois, il s'appelle vraiment comme ça. Et le roi, il est là, il dit: oui, c'est vrai, je suis vieux, il faut pas. Et puis, il y a Gandalf, qui est un des héros, qui arrive et qui dit au roi: non, tu n'es pas vieux, non, tu peux t'endresser, non, tu peux aller te battre. Et le roi, d'un seul coup, se redresse, redevient le roi et se monte sur son cheval et va se faire tuer en gagnant la victoire finale. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis toujours dit, ce que nous disent les gens qui nous gouvernent, c'est: vous êtes vieux, vous êtes fatigué, vous êtes. C'est pas vrai. On est des Français, on peut se relever et on peut les ratatiner. C'est ça le but. Le voici, c'est de se retrouver notre dignité contre ces gens qui veulent nous abaisser.
On est des Français, bordel.
On est des Français et on vous emmerde.
Je pense que c'est un excellent message pour clore cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi en entier. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'aller regarder le reste des vidéos, de mettre un commentaire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Voilà.
Et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.